Bonjour, ça va bien? Je suis très content d'être ici ce matin. C'est vraiment une joie de vous revoir. D'être là, on s'est promené un peu à Saint-Félicien et puis dans les environs fin de semaine. Puis ça nous a rappelé beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. C'est avec nostalgie qu'on a fait le tour. Et puis on est vraiment reconnaissant. Puis ça nous rappelle aussi plein de bénédictions que le Seigneur nous a accordées à travers les 9 années qu'on a passées ici. La préciosité de ce que le Seigneur nous a montré, la préciosité aussi des liens qu'on a avec chacun de vous, nos frères, nos sœurs. On vous aime beaucoup, vous êtes dans nos cœurs. Et puis, on ne vous oublie pas, on continue de prier pour vous aussi. Et puis, c'est vraiment un privilège d'être là ce matin. Ce matin, j'aimerais prendre un peu de temps pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, qu'est-ce qu'on a fait maintenant qu'on est rendu missionnaire à Parkside Ranch, qui est un camp chrétien en Estrie, à Orford. Certaines personnes nous ont visités pendant l'année. On a été vraiment bénis des recevoir, des voir. Puis on relance l'invitation. Vous êtes les bienvenus aussi. Si ça vous tente de venir faire un tour, vous êtes les bienvenus. Pendant l'été, c'est difficile. On peut se croiser, se dire bonjour, mais on est très, 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 très occupés, naturellement. Là. Fait que si c'est dans un autre temps dans l'année, on va avoir plus de temps de passer du temps ensemble, puis de prendre des nouvelles, puis de se voir. Vous allez comprendre un peu pourquoi aussi ce matin, qu'est-ce qui fait que c'est si occupé que ça pendant l'été. Bien, je vais essayer de vous le montrer ainsi en même temps. Donc, pour commencer, Parkside Ranch, c'est quoi? C'est un camp, ça fait maintenant 52, 53. En 2019, c'était le 50e. Fait que ça fait 2-3 ans. Fait que ça fait 53 ans que c'est un camp que le Seigneur a placé vraiment à Orford. On voit là vraiment la main de Dieu dans la façon dont le camp a vu le jour. Puis depuis 53 ans, le camp continue de grandir, de voir la main de Dieu, puis de servir le Seigneur avec beaucoup plus de ressources et puis d'une ampleur beaucoup plus grande que dans ses débuts. Puis c'est vraiment la gloire de Dieu qui est à l'œuvre. Tout ce qu'on fait pendant l'année à Parkside, bien, à Parkside Ranch, il y a premièrement maintenant, depuis la pandémie, pendant l'été, les camps de jour ont vraiment pris une ampleur assez importante. Pourquoi? Bien, avant, le camp était concentré principalement sur des camps résidentiels où ce que les jeunes arrivaient et puis passaient la semaine avec nous puis repartaient chez eux. Et puis, on avait des jeunes principalement de Montréal. On avait aussi des États-Unis parce qu'il y a des gens qui travaillaient en permanence au camp qui étaient américains. Donc, leur communauté, leurs contacts, les gens qui étaient autour d'eux avant qu'ils s'en viennent par ici, bien, continuaient d'être en contact puis de les soutenir. Donc, ils participaient beaucoup au camp aussi. Et puis, avec la pandémie, bien, qu'est-ce qui est arrivé de ces camps-là? Bien, tout a fermé. Donc, pendant une année, un été, c'était la première fois en 50 ans au camp, il n'y avait pas de jeunes qui sont venus au camp à Parkside. Et puis, c'est sûr, ça a été un choc, mais en même temps, dans ces moments-là, on voit aussi la main de Dieu qui nous arrête, qui nous amène à reconsidérer les choses. Et puis, l'année suivante, le camp a réouvert, mais à ce moment-là, pas avec des camps résidentiels, mais avec des camps de jour. Les camps de jour, c'était déjà une petite partie du camp. Il y avait peut-être 25 jeunes dans les dernières années qui fréquentaient le camp de jour à Parkside, mais c'était vraiment une minorité. Et puis, avec la pandémie, bien, ça a pris une ampleur comme ça n'en a jamais eu. Ils ont commencé à accueillir 75-80 jeunes par semaine. Et puis, l'été passé, celle qu'on vient juste de vivre en 2022, on était 100 jeunes par semaine au camp de jour. Et les jeunes arrivent le matin et les jeunes repartent le soir. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des jeunes qui sont près du camp physiquement. Ce n'est pas des gens de Montréal, ce n'est pas des gens des États-Unis, c'est les jeunes qui vivent dans un rayon d'un 30 minutes de route du camp. Donc, à 95 % c'est des familles non chrétiennes, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, puis à l'extérieur de Parkside, ils n'entendent pas parler de Dieu. Donc, c'est vraiment un privilège d'avoir un entrant, d'avoir un accès dans le peuple québécois à travers les enfants, puis aussi à travers les familles, parce que les parents, on les voit le matin et on les voit le soir, on les voit tous les jours. Et à tout bout de champ, il se passe des situations dans la journée, on a besoin de parler aux parents, donner des nouvelles, pour quelconque intervention que ce soit, mais il y a une relation avec le parent. Beaucoup plus que juste si on le voit le dimanche quand il laisse son enfant, puis on le recroise le samedi vite quand il vient chercher son enfant, comme dans les camps résidentiels. C'est tous les jours. Et puis, on a beaucoup de jeunes qui restent au camp tout l'été aussi, qui vont faire les 7 semaines de camp, au camp de jour. Donc, il y a vraiment une relation, puis il y a un lien qui se développe avec les jeunes, qui est surprenamment vraiment profond, puis personnel, puis sincère. Donc, c'est vraiment un privilège, puis vraiment l'œuvre de Dieu d'avoir un entrant aussi important dans la vie de ces enfants-là. Donc, c'est 100 jeunes par semaine pendant 5 semaines, puis par la suite, pour les 2 dernières semaines, on accueille 75 jeunes. Il faut qu'on réduise, l'année passée, il a fallu qu'on réduise le nombre de camps de jour parce qu'on a fait 2 camps résidentiels. On recommençait les camps d'une semaine. Donc, on a réduit le nombre de jeunes au camp de jour parce que notre cafétéria puis nos installations ont une capacité maximum de jeunes sur le site pendant la journée. Et puis, on a diminué à 75 jeunes pour le camp de jour. On a eu un total de 650 places. Là-dedans, il y a des jeunes qui revenaient à plusieurs semaines, mais on a un potentiel là, de 650 places pour les camps de jour. Donc, à tous les semaines, à tous les jours, les jeunes entendent parler de Jésus et entendent l'Évangile, à tous les semaines. On a touché 325 familles au total dans la région de Magog, Harford. Et puis, c'est vraiment, vraiment une bénédiction et un privilège. On a des photos ici, 2 photos, les jeunes sont en train de se faire arroser dans la trampoline. Et puis, on a ici un exemple là, des temps bibliques qu'on a. On a le privilège d'avoir vraiment des staffs qui viennent nous soutenir. On a Marie-Josée qui vient enseigner plusieurs semaines dans l'été. C'est la femme du pasteur de l'église de Magog. Elle prend une bonne partie de son été avec son mari, puis elle vient tous les jours pendant une heure et demie, enseigner la parole aux enfants. Et puis, cette année, Chantal a eu le privilège aussi de le faire. Et puis, Chantal, si tu veux venir raconter un peu ce que le Seigneur a fait aussi à travers la semaine ou ce que tu as enseigné.
Je veux juste vous dire que, tantôt, juste avant là, de parler de ça, que la chanson là, « Comme un courant d'eau », ça m'a touchée vraiment particulièrement parce que je ne la connaissais pas avant de venir ici à Saint-Félicien. Je l'ai découvert ici avec l'Église. Puis moi, Dieu, dans la chanson, les choses qu'il dit, c'est les choses que Dieu a faites dans mon cœur ici. Okay? Puis après ça, en plus, dans la chanson, il y a mon verset préféré. À celui que tu, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Fait que j'ai pleuré parce que j'ai fait comme, oh, Seigneur, tu sais, c'est vraiment, merci pour cette Église. Puis soyez bénis, mes frères et sœurs. Par rapport à cet été, j'ai enseigné pendant une semaine, puis je vais vous dire, j'ai vraiment été touchée de voir comment les enfants, il y a une guerre spirituelle pour les âmes. Tu sais, on le sait pour toute âme, pour les adultes, puis pour toutes les âmes, pour ici aussi. Mais puis j'ai vu la lutte spirituelle, le combat spirituel par rapport aux âmes des enfants. Puis quand j'ai enseigné, ben j'ai enseigné, il y avait comme 5 sujets par journée. Alors, le premier, dans ma semaine, en tout cas, fallait que je suis des étapes, puis tout ça. Puis là, j'ai préparé, puis le Seigneur m'a aidé à préparer les étapes. Mais au milieu de la semaine, je parlais de comment, de l'histoire du lépreux, puis qui est allé voir Jésus, puis il a demandé je sais que tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Puis Jésus, il a donné un cœur pur. Il a aussi enlevé de la lèpre. Là, il a enlevé sa lèpre. Et puis là, je parlais aux enfants que pour aller au ciel, ben il fallait qu'il y ait un cœur pur, tu sais. Et puis, je leur ai dit, je ne vous donne pas la solution tout de suite. Je vais vous donner demain, jeudi. Mais vous reviendrez, on va en reparler, tout ça. Fait que là, les enfants sont partis, sauf une petite fille qui est venue me voir. Puis elle a dit, moi, je pars pas d'ici tant que je sais pas comment avoir un cœur pur. Parce que moi, je veux y aller dans le royaume de Dieu. Moi, je veux connaître Jésus. Fait que j'étais abasourdie. C'était la première fois qu'un enfant me dit ça comme ça. Puis, tu sais, elle insistait, là, c'était comme vraiment là, les pieds, là. Moi, je reste ici tant que je sais pas comment avoir un cœur pur. Et puis là, j'ai pu prier avec elle, j'ai enseigné, je lui ai expliqué le plan du salut, la solution qui était là pour le lendemain, parce qu'elle me disait qu'elle ne serait pas là le lendemain, puis ça l'inquiétait, tu sais. Fait qu'on a prié ensemble, mais je veux vous dire, c'est ça, j'ai été bénie de voir à quel point le Seigneur, il trouve précieux chaque âme. Mm-hmm. Puis c'est ça.
Merci Chantal.
Puis on a eu beaucoup de bonnes conversations avec plusieurs de ces jeunes-là, plusieurs chaque semaine, entre à peu près 5 à 10 jeunes restaient au moment de l'appel qu'on faisait vers le jeudi, principalement. Et puis on a distribué au-dessus de 250 Bibles à ces enfants-là, la majorité des Nouveaux Testaments, mais cette année, la particularité, c'est les jeunes voulaient des Bibles complètes. Ils disent, nous, on veut toute la Bible. Je ne veux pas juste le Nouveau Testament, mais je le veux tout. Oui, puis la petite fille avait demandé une Bible, hein? Elle était touchée de ce qu'on leur donnait une Bible complète, puis que c'était à elle, là. On n'a pas besoin de la ramener demain ou quoi que ce soit. Vraiment, Dieu est à l'œuvre à travers, dans la vie de ces enfants-là. Puis, un autre des petites filles, elle était là plusieurs semaines dans l'été, puis c'est de voir sa soif qu'elle a en Dieu aussi. C'est une petite fille qui reste à 3 minutes du camp, elle reste dans les développements pas loin. Et puis, à toutes les activités, elle vient durant l'hiver, pendant l'été, elle vient le plus possible. Mais c'est de voir sa soif qu'elle a d'entendre, de connaître. Et puis, elle nous a partagé cet été qu'elle lisait maintenant la Bible à son petit frère le soir avant de se coucher. Puis, on lui a donné une Bible complète aussi à elle. Elle avait juste le Nouveau Testament. Là, elle dit, je vais pouvoir voir les histoires là, de Joseph, puis tout ça, parce qu'on utilise beaucoup l'Ancien Testament avec les enfants. Mais on leur donne des Nouveaux Testaments. Fait que là, elle est où l'histoire qu'on a eue aujourd'hui? Bien, elle n'est pas là. Mais là, on leur donnait au complet, puis on leur montrait. Donc, c'est les gens ont soif. Les jeunes ont soif, vraiment, d'entendre, puis de recevoir l'Évangile. Et puis, comme je leur expliquais à plusieurs d'entre eux autres, ils n'ont aucune occasion à l'extérieur de Parkside d'entendre parler de Jésus. Ce n'est pas leur famille, ce n'est pas les gens dans leur entourage qui vont les encourager ou les inciter ou qui vont les instruire sur qui est Jésus. Et puis, Parkside, pour eux, c'est vraiment une parenthèse dans leur vie, une parenthèse dans leur journée pour venir entendre puis comprendre. Et à travers tout le reste de la journée, notre mandat, comme c'est le mandat de tous les chrétiens, c'est d'incarner l'amour de Jésus pour chacun d'eux. Et puis, on se fait un devoir de donner l'attention aux enfants pour réellement leur montrer qu'on se soucie, que Jésus est présent, que Jésus se soucie d'eux et qu'ils sont précieux. Et il y a un petit garçon qui a écrit une lettre à sa monitrice à la fin de l'été. Et puis, ça a été un petit garçon qui était difficile. Vraiment, tout l'été, c'est un petit garçon qui a tout qu'un caractère, puis il a son franc-parler, puis il est capable de donner du trouble à son moniteur. Et puis, il l'a fait. Et puis, à la fin de l'été, la monitrice n'était pas consciente du lien que cet enfant-là avait avec elle, puis de voir comment est-ce qu'elle avait un impact dans sa vie. Et puis, à la fin de l'été, quand elle a reçu sa lettre, ça disait clairement, c'est Jody, c'est quoi, comment qu'elle disait ça, Chantal?
Ça disait, Jody me parle avec douceur, Jody me montre l'amour de Jésus.
Judy me parle avec douceur, Judy ne crie pas après moi, Judy me montre l'amour de Jésus, puis il expliquait comment est-ce qu'il avait apprécié son été. Et puis, ça l'a vraiment, vraiment touché la monitrice aussi, de voir à quel point on peut avoir un impact important dans la vie d'un enfant en si peu de temps. Et puis, de voir aussi à quel point les jeunes manquent d'amour. C'est foudroyant de voir à quel point les jeunes manquent d'amour. Et ils sont vraiment réceptifs quand ils reçoivent. Ils en ont besoin. Donc, on a vraiment eu l'occasion de le voir et de prendre part à tout ça cet été. Puis on est vraiment, vraiment reconnaissant à travers les camps, à travers les camps de jour. Une autre chose qu'on a faite aussi au courant de l'année, c'est les camps résidentiels les deux dernières semaines d'août. On a eu deux semaines de camps. Et puis, encore là, les camps étaient pleins. Pour les camps de jour, les camps ne sont pas juste pleins. Ils pourraient déborder au-delà de notre capacité. On a des listes d'attente de 20 à 30 jeunes par semaine qui veulent participer à notre camp. Donc, puis on ne cache pas du tout qu'on enseigne la parole de Dieu tous les jours aux enfants. Et puis même les tout-petits, là, quand ils vont à l'école du dimanche, mais quand ils vont à l'enseignement, quand les parents arrivent le soir chercher leur enfant, bien, les jeunes répètent l'enseignement qu'ils ont reçu dans la journée, puis enseignent leurs parents. c'est assez particulier de voir ça. Les jeunes apprécient. Donc, les camps résidentiels, ça a été deux semaines. 80 jeunes la première semaine, parce qu'on avait le staff nécessaire pour accueillir tous ces jeunes-là. Puis la deuxième semaine, on avait eu 60 jeunes pour ce camp-là. Et puis, les camps de jour, puis les camps résidentiels, c'est deux ambiances complètement différentes. Les camps résidentiels, on les a vraiment d'une façon 100% avec nous autres tout le long de la semaine. Donc, c'est vraiment, c'est comme un concentré, c'est beaucoup plus intense. Et puis, ça a le potentiel de vraiment avoir, là ou encore, un impact vraiment profond dans la vie de ces jeunes-là. J'aimerais vous montrer à ce moment-ci une vidéo qui résume la deuxième semaine de camp qu'on a eue. Puis vous allez comprendre pourquoi. La vidéo, il est dans l'ordinateur en arrière. En anglais, mais par la suite, là, je vais vous traduire rapidement qu'est-ce qu'elle dit aussi en français. Il faut qu'il boive.
Hi, Marie Lee. This is Mary Lee, one of my favorite little campers here. The kids stand out to me. They're the best.
Oh, how does it feel, Gail? How does it feel? Amazing!
Oh,
hard,
good, oh.
My favorite part is the counselors and how like fun they are.
Ma partie
like,
préférée c'est comment est-ce que les staffs sont le fun.
There's basically never a boring moment.
Il y a pas de
like
moment
plat. Having another home with tons of friends
c'est
because
comme une autre maison
everyone
avec plein
is nice, all the counselors are nice and they take really nice care of the camp and the outdoor environment is really really pretty.
Ils aiment ça jouer dehors puis les staffs, l'attention que les staffs nous donnent, c'est vraiment particulier et touchant. C'est ça qu'elle explique.
I like my counselor a lot. He's very fun and enjoyable to
J'aime
be
mon
with.
Moniteur.
I also made new friends to play with.
Des amis.
It's pretty fun.
It's a Christian camp and it's very nice because, like, you learn about like God and the same time of having fun.
Elle dit, le camp c'est vraiment le fun. En même temps, j'apprends sur Dieu puis en même temps, j'ai beaucoup de plaisir.
The activities are amazing, and then the people here are just so friendly. Mm-hmm. It feels like a big, really big family. Yeah.
On se sent comme une famille. Les gens sont vraiment le fun, puis on se sent un peu comme c'est une nouvelle famille.
Be cool, but this is really cool.
This is really a fun week. I like the pen and the lake. I like a friend and the relation with God.
Me too.
Il avait perdu la voix aussi là. Il avait tellement crié qu'il avait perdu la voix. Là, vous comprenez pourquoi il a perdu la voix. Il criait tout le temps. Oh oui.
I've been here for 2 weeks. I really like it.
J'ai été ici deux semaines. J'ai vraiment aimé ça. C'est très le fun.
At first, when I came here, I didn't really think much of God.
Avant de venir ici, je pensais pas vraiment à Dieu.
What it was or anything, but coming here, I think I realized that God is someone. There is someone out there, and I think that we need to. I don't know. I just realized that there is someone out there, and that, I don't know, I should look into that myself.
Avant de venir ici, je réalisais pas vraiment qu'il y avait un Dieu. Je ne donnais pas vraiment le temps de réfléchir à ça. Puis ici, je réalise qu'il y a un Dieu, puis c'est important de donner du temps à apprendre à le connaître, puis à réfléchir à tout ça.
3, 2, 1, go!
On a fait geler des chandails. Puis le jeu, c'était que le premier qui mettait le chandail gelé sur lui, qui réussissait à mettre le chandail.
Joy of knowing that he was bringing me peace, comfort to my soul.
Stephen, in the name of the Father, the Son,
and the Spirit, I baptize you.
Ouais. J'ai eu le privilège de baptiser un des staffs cet été. Ce qu'on a entendu avant, c'était son témoignage. Cette soirée-là, elle a vraiment été spéciale. Ça a été orchestré par le Seigneur du début à la fin. Ça a été tellement un beau témoignage pour les enfants. Ça, c'est un des versets que lui a mentionné dans son témoignage. Fais ta confiance dans le Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Dans toutes tes voies, considère le Seigneur. Donc, ça a été un bref résumé de la deuxième semaine qu'on a faite. Il y a beaucoup de plaisir, on fait plein de jeux, mais ce qui est le témoignage d'une des enfants, d'une des petites filles qu'on a entendues, c'est « Avant de venir ici, je ne prenais pas vraiment le temps de considérer ou de penser qu'il y avait un Dieu. On ne m'en parlait pas, on ne me le présentait pas, on ne m'emmenait pas à réfléchir, à considérer dans ma vie qui Dieu est. Mais en venant ici, je réalise qu'il y a un Dieu, que c'est important et que ça va faire une différence dans ma vie. Il faut que j'y consacre du temps. » Et puis, c'est des témoignages comme ça. Il y en a mis juste un dans la vidéo, mais à un moment donné, dans la semaine, on a pris le temps de se promener avec la caméra puis de passer le maximum de jeunes puis de leur poser des questions. Et puis ça, c'est un des éléments qui revenait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a interviewé aussi une staff qui a passé des années à Parkside, puis elle revenait maintenant à 26, 27 ans, puis elle revenait pour nous donner un coup de main pendant la semaine, puis on lui a demandé le rôle que Parkside a joué dans sa vie. Et puis, elle est venue les yeux pleins d'eau, elle a dit, « Veux-tu me faire pleurer avec ta question? » Même pour le staff, les jeunes qui viennent, l'investissement qui est fait dans leur vie, l'expérience qu'ils vivent, d'être utile dans la vie, d'avoir un impact dans la vie de ces jeunes-là, est vraiment important dans leur propre cheminement aussi. Oui, Chantal?
Steven, celui qui s'est baptisé, il était venu
quelques années avant, puis
il était venu en disant qu'il était chrétien, mais il avait eu toutes les réponses pour pouvoir comme...
Bien répondre.
Pour pouvoir venir au camp. Puis quand il est arrivé, il a comme entendu parler du Seigneur, puis il a accepté le Seigneur dans son cœur.
Ouais. Il s'est fait prendre.
Au détour, c'est vraiment cool.
À un moment donné, dans l'été, il parlait avec une des autres staffs, puis il dit, moi, dans le fond, je ne suis pas chrétien. Il s'est comme dévoilé. Fait que là, tout le monde a fait comme, quoi? T'es moniteur, ça fait 3 semaines, puis tu ne connais même pas le Seigneur, puis il y a des temps de cabine où il faut qu'il anime des questions, il faut qu'il... Tu sais, c'est comme... ça sort d'où, ça? Mais il a voulu... Tu sais, il s'est fait prendre à son jeu, puis il a voulu se mettre en règle, puis... Il a donné, au courant de l'été, il a donné sa vie au Seigneur. Puis il se posait la question, il dit, c'est-tu pour ça qu'après ça, ils m'ont mis dans la maintenance puis ils m'ont pu mis comme moniteur? Il dit, qu'est-ce que tu penses? C'est sûr qu'ils t'ont changé de position, de rôle. Et puis cet été, pendant les 15 jours, le soir, les jeunes ne sont pas là. Fait qu'on a un temps avec ces moniteurs-là. On prend un temps le soir, on a une heure ensemble. Et puis on a fait un survol de la création jusqu'à Jésus. À travers ça, on expliquait l'importance d'obéissance au Seigneur. Puis le baptême fait partie d'un geste d'obéissance que Dieu nous a demandé. Puis il a comme réalisé l'importance de se faire baptiser. Puis il dit, moi, je veux ça dans ma vie. Je veux obéir au Seigneur. Et puis il a fait un autre pas de foi cet été. Il a demandé à se faire baptiser. Et puis... cette soirée-là, écoutez, ça a été vraiment une bénédiction. Le Seigneur a arrangé l'horaire, tout a fité, puis ça a été un moment là, vraiment percutant dans la vie des jeunes. Puis la façon dont il a conté son témoignage, d'où il vient, ça l'a touché des jeunes. Le soir, dans la cabine, les moniteurs ont eu des temps, ils ont fait des retours sur ça avec eux autres, et puis ça a été... vraiment, on a vu la main de Dieu à travers les camps résidentiels encore cette année. Une autre chose, quand l'été est fini, on a des journées portes ouvertes aussi, 3 fois dans l'année, au mois de mai, pour le temps d'avril, dans le coin d'avril-mai. On a une journée cabane à sucre Et puis, on a accueilli 500 personnes cette journée-là. Au mois de juin, on a une autre journée porte ouverte. On sert un repas. Tout est gratuit. Il y a des activités sur le site. On a accueilli encore là 500 personnes. Et puis, c'est au mois d'octobre, pour l'Action de grâce, on a accueilli 200 personnes cette année. Et puis, à chaque événement, on a la table des fermiers chrétiens qui sont là. Donc, les gens peuvent aller à la table et puis ils vont encore là entendre l'Évangile à travers tout ça d'une façon vraiment respectueuse puis amicale. La table des fermiers chrétiens, c'est une leçon d'objet en réalité. C'est qu'on te donne un objet gratuit. Tu n'as rien à faire pour recevoir cet objet-là, comme tu n'as rien à faire pour recevoir l'Évangile. Donc, les cinq couleurs sont utilisées. Puis l'image est vraiment percutante. Puis les enfants aiment ça, les petites bébelles. Fait que les enfants amènent les parents encore là. Et puis, c'est une occasion pour nous de croiser les jeunes. Les jeunes qui viennent au camp de jour, ils veulent être là. Les parents sont contents de venir, de l'accompagner, de participer sur le site avec leurs enfants aussi. Donc, ça nous donne une occasion d'être en relation avec eux encore à travers ça. On a des clubs après l'école, les mardis, de 3h30 à 5h. 5h30, on est avec des jeunes. Cette année, cette session-ci, on en a eu 13. Ça a duré 8 semaines. Et puis, on a des activités avec les chevaux, principalement. Et puis, on fait d'autres activités aussi. Mais on a toujours un 30 minutes à peu près où est-ce qu'on fait un enseignement de la parole avec eux. Et puis, cette année, il y a une des filles qui était dans mon groupe dans le camp de jour qui s'est inscrite. Et puis, elle, c'est une amoureuse des chevaux. Elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est être avec les chevaux puis de l'équitation. Puis, elle tripe bien raide. Et puis là, la première fois, elle dit, on a fini avec les chevaux. Oui, c'est le temps de l'histoire biblique. Elle dit, l'histoire biblique? Elle dit, quoi? Oh oui, on va faire ça toutes les semaines. Mais là, j'ai dit, t'es à Parkside, tu t'imaginais quoi? J'ai dit, c'est sûr qu'on va vous enseigner sur Jésus. C'est où est-ce que vous avez l'occasion d'entendre parler de Jésus si c'est pas à Parkside? Ben, elle dit, jamais. Fait qu'au début, elle était vraiment mal à l'aise et puis à... Comment je peux dire? Elle était surprise. Mais tout au long de les sessions, là, c'est une de celles qui participait le plus. Elle posait des questions, puis elle répondait quand on faisait les résumés des dernières semaines, puis toutes ces choses-là. Et puis, à la fin, elle a dit, à la dernière rencontre, on a pris le temps de voir qu'est-ce qu'ils ont appris, puis elle a partagé, elle a dit, je ne croyais pas vraiment en Dieu, mais dans le fond, elle dit, c'est parce que j'avais jamais été exposé à ça, vraiment. On m'avait jamais rien dit sur Dieu, puis qui Dieu était. Et puis là, elle dit, j'apprends à le connaître puis à le découvrir. Puis elle dit, tu sais, elle dit, je peux dire que je crois que Dieu existe. Wow! Wow! 8 semaines, une relation avec elle, une demi-heure d'enseignement, et puis le Seigneur agit puissamment dans son cœur. Donc, c'est vraiment un privilège. On a un des groupes dans les dernières années là, qui faisait le Horse Club. Une des activités, c'était faire des maisons de pain d'épices. Et puis, quand on regarde les étapes vers le salut qu'on vous a déjà présentées à l'Église, de la méfiance vers la confiance, c'est comme les processus naturels d'une personne, les étapes naturelles d'une personne qui s'avance vers le Seigneur. La première, c'est de la méfiance vers la confiance. Les gens sont méfiants de la parole de Dieu, sont méfiants des Églises. Mais à travers la relation, cette méfiance-là est transformée vers la confiance. Et puis, après ça, ils sont indifférents vers la curiosité. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Vous vous souvenez de ces étapes-là? Mais puis après ça, ça continue de fermé au changement, ouvert au changement, de errance vers la recherche, où est-ce qu'ils voient vraiment que Dieu est la solution au lieu d'utiliser toutes sortes de philosophies autour. Et par la suite, ils font le pas de donner leur vie au Seigneur. Mais à Parkside, là, ces deux étapes-là ici, là, de la méfiance vers la confiance et puis de l'indifférence vers la curiosité, je vous dirais que c'est très, 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 très présent, très, très, très fort et ça fonctionne. Dieu bénit, Dieu le fait. Et c'est un miracle. C'est un miracle, vraiment, d'avoir autant de jeunes exposés à travers nos installations. Dieu amène la confiance, amène la relation. La confiance vient de la relation. Et puis, les jeunes viennent pour s'amuser, rentrent en relation, les parents voient leurs enfants heureux, sont curieux, veulent comprendre, veulent voir, veulent participer. Et puis, ils comprennent la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on a reçu l'amour de Jésus, puis on veut donner l'amour de Jésus aussi. Fait que ça pique leur curiosité. Puis ils sentent qu'ils ont la liberté de poser des questions, puis d'en apprendre plus, puis de faire des pas vers le Seigneur dans ce contexte-là. On prie pour que les églises autour de nous s'impliquent de plus en plus dans ce qui se passe à Parkside. On a besoin des églises, on a besoin d'eux, parce qu'on veut que les gens continuent de progresser aussi vers les autres étapes. On est capable de le faire, on accompagne ces gens-là, mais on voudrait donner principalement ce rôle-là aux églises. Une bénédiction qu'on a eue cette année, depuis maintenant un mois, il y a une famille qui fréquente le camp de jour, qui se sont joints à l'église de Magog, puis qui commencent leur cheminement en tant que famille vers le Seigneur. Donc, c'est vraiment ça qui est notre désir. Donc, une des requêtes de prière qu'on a, c'est de prier que les églises s'impliquent davantage dans les opérations, dans ce qui se fait au niveau du camp. De nous aider aussi des projets pour 2023. On est en train d'implanter un programme de leadership vraiment pour les staffs. On veut vraiment prendre soin des staffs que Dieu nous envoie. Le camp joue un rôle important dans leur vie aussi. Puis on aimerait prendre encore plus soin d'eux autres. Donc, on est en train d'implanter un programme pour eux. Aussi, un suivi pour les jeunes. Tous ces jeunes-là repartent chez eux. Ils ne vont pas à l'école du dimanche. Leurs parents ne sont pas nécessairement croyants. On cherche un moyen de rester en contact avec eux tout au long de l'année. Donc, implanter un suivi pour les jeunes pendant l'année. Donc, c'est les requêtes aussi que je vous apporte. Vous êtes des partenaires avec nous. Je sais que vous nous soutenez aussi financièrement. C'est très apprécié. Mais je sais aussi que vous nous soutenez aussi dans la prière. Et puis, j'avais le désir de vous présenter tout ça ce matin pour vous encourager à prier encore davantage. Dieu est à l'œuvre. Dieu agit. Et il agit puissamment. Et les jeunes sont réceptifs. Les familles aussi sont réceptives. Et puis, priez pour ça, qu'on ait un programme de suivi pour eux, qu'on puisse avoir un programme de leadership aussi pour les staffs, et que les églises s'impliquent encore davantage dans le camp. On a besoin d'eux. Puis là où le camp réussit dans les deux premières étapes, c'est souvent là où les églises ont le plus de difficultés. Passer de la méfiance à la confiance, la méfiance est tellement grande du peuple québécois. C'est tellement grand. On a besoin de l'intervention de Dieu pour que cette méfiance-là tombe, puis tombe vers la confiance, puis de l'indifférence vers la curiosité. C'est un peu ce que les jeunes disaient avant, je ne m'occupais pas de Dieu. Je ne considérais même pas qu'il existait ou je ne pensais pas que c'était important, mais maintenant, je le réalise. C'est important. Il existe. Donc, priez pour ça. J'ai jusqu'à quelle heure? Là, il est 11h20. C'est pas mal ça, hein? 10-15 minutes encore. Donc, ça, c'est les bénédictions. C'est ce que Dieu fait. On est vraiment reconnaissant. Et puis, j'ai su que présentement, vous êtes dans une série sur la résolution de conflits. Et puis, j'ai écouté quelques prédications là, sur Internet que notre frère Brian a faites. Et puis, Parkside, c'est merveilleux quand on regarde l'œuvre que Dieu est en train de faire, comme je vous l'ai présenté ce matin. C'est super. Ça a l'air d'être beau puis d'être parfait. Mais c'est pas le cas. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et puis, à Parkside, on a des défis, nous aussi, au niveau des relations. Vous savez, les relations, c'est une bénédiction compliquée. Hein? Comme vous le savez, dans l'Église aussi, les relations, c'est souvent quelque chose qui n'est pas tout le temps facile. Dans certaines situations, ça va bien, Mais il arrive des conflits aussi dans les églises, dans les familles. Les relations, c'est une bénédiction compliquée. Puis nous aussi, à Parkside, on a eu notre part de bénédiction compliquée. C'est la première année que je suis là. Et puis, j'arrive avec mon bagage, j'arrive avec ma personnalité, ma vision de voir les choses, dans une équipe que ça fait plusieurs années qui fonctionne ensemble. Et puis même au sein de l'équipe qui est là depuis longtemps, les rôles ont changé dans la dernière année. Donc, quand on est dans une grosse transition comme ça, bien, il y a plein de choses nouvelles, il y a plein de malentendus, il y a plein de confusion à plein d'égards. Donc, mettre tout ça ensemble, ça l'amène quoi?
Des conflits.
Des conflits, eh oui. Mais c'est quand même merveilleux de voir que malgré le fait qu'il y a des conflits, que ce n'est pas parfait, tout ce que Dieu fait malgré tout, toutes ces bénédictions-là que Dieu nous accorde, c'est malgré notre imperfection, malgré le fait qu'il y a des conflits, malgré le fait que c'est fait d'une façon complètement imparfaite, Dieu agit par-dessus ça, il utilise ces choses imparfaites-là, il fait son œuvre quand même. N'est-ce pas merveilleux? C'est tout qu'un encouragement. Parce que malgré le fait que ce n'est pas parfait, comme l'Église n'est pas parfaite, bien Dieu l'utilise quand même. Dieu agit quand même. Et puis, quand je réfléchissais à tout ce qui s'est passé dans l'été, oui, toutes ces bénédictions-là, l'impact qu'il y a eu, les vies transformées, sont nombreuses. Mais quand je regarde les choses qui ont été plus difficiles dans l'année, on fait le bilan de tout ça. Et puis, j'écoutais les prédications de Brian qui nous rappelait les principes de base au niveau de la résolution des conflits. Et puis, ça m'a vraiment fait réfléchir. Ça m'a vraiment fait réfléchir sur, justement, le pourquoi il y a des choses qui ont été si compliquées au sein de l'équipe permanente à Parkside durant la dernière année. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a été si difficile? Oui, il y a les raisons physique, contextuel, qui, comme je vous ai expliqué, les transitions, les nouveaux rôles, une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe, puis les gens ne comprennent pas trop pourquoi que je fais les choses comme ça, ou j'amène des nouvelles idées, ça déstabilise tous ceux qui ont plus de misère avec le changement, puis toutes ces choses-là. Donc, tout ça, ça s'explique. Mais au-delà de ça aussi, il y a des raisons spirituelles. Au-delà des contextes, il y a des raisons spirituelles, puis il y a des enjeux dans chacun de nos cœurs également qui nous amènent à ne pas tout le temps honorer le Seigneur dans la façon dont on agit au sein d'une situation instable ou au sein d'une situation qui nous menace, au sein d'un conflit, à travers des relations. Il y a des enjeux dans chacun de nos cœurs. Et puis, je réfléchissais, puis je demandais au Seigneur qu'est-ce que je peux partager. Puis, une des lectures que j'ai faites dernièrement, pas longtemps, l'auteur parlait de la foi. Et quand on s'arrête, la foi, c'est quoi la foi? Et je me souviens d'avoir prêché sur ce sujet-là souvent, puis j'ai entendu Brian aussi en parler pour la résolution de conflits. Un des éléments essentiels, si on veut agir différemment dans notre vie, c'est qu'il faut avoir le désir sincère de vouloir glorifier le Seigneur. Si ce désir-là dans nos cœurs n'est pas présent, pourquoi est-ce qu'on agirait d'une façon différente dans un conflit que de protéger notre propre intérêt? On agit en fonction de la chair, on agit en fonction de notre propre intérêt, puis on n'agit pas différemment. On n'a pas le souci de vouloir glorifier le Seigneur dans notre vie, donc les conflits vont continuer à être au service, si on peut dire, de notre chair, où la résolution va être très, très, très difficile parce que chacun cherche son propre intérêt. Et quand une personne cherche à honorer le Seigneur dans sa vie, quand une situation de conflit va se présenter, il va dire, comment est-ce que je peux agir comme Jésus dans la situation? Puis Brian nous en a parlé beaucoup de cet élément-là. Et puis, qu'est-ce qui nous emmène à être capable d'avoir cette attitude-là dans nos vies? Ça passe par la foi. Avoir confiance que Dieu veut notre bien. Avoir confiance qu'il n'y a rien dans la souveraineté de Dieu. Si on n'a pas cette confiance-là, si on n'a pas la foi, on associe souvent le mot foi à confiance. La foi, c'est quoi? C'est avoir une pleine confiance au Seigneur. Être capable de s'abandonner dans le Seigneur, puis de lui faire confiance et puis d'agir en fonction de ce qu'il nous demande, en ayant confiance qu'il va répondre, qu'il va agir, il va faire son œuvre, il va se glorifier. Donc, je suis à l'aise de faire le pas. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en Dieu, j'ai la foi en Dieu. Souvent, quand on parle de la foi, on essaie souvent de l'expliquer, de la comprendre, même au-delà de ce que la parole de Dieu nous enseigne sur la foi. Quand on regarde, quand la Bible parle de la foi, elle décrit beaucoup plus les actions que la foi emmène que la foi elle-même. Elle explique beaucoup plus le fruit de la foi dans la vie d'une personne que ce qu'est la foi en tant que telle. Et puis, c'est curieux parce qu'on aimerait tellement ça comprendre, vraiment avoir une définition précise de la foi. Il y a le passage qui dit « la foi, c'est mettre sa confiance dans quelque chose qu'on ne voit pas, avoir l'espérance en Dieu même si on ne le voit pas. » Mais encore là, dans Hébreux 11, ce passage-là explique plus le fruit, le fonctionnement de la foi que l'essence même de la foi. Et puis, on aimerait ça avoir une définition claire et précise de l'essence de la foi. Mais la parole de Dieu ne nous la donne pas d'une façon précise. Mais elle nous dit une chose, par exemple, un concept que j'ai trouvé vraiment simple, mais vraiment percutant, et puis je vais continuer à méditer là-dessus, puis je voudrais vous le communiquer ce matin. La façon dont c'est véhiculé, si on regarde dans le livre des Nombres, Nombre 21, chapitre, verset 4 à 9, c'est l'histoire du peuple de Dieu qui est dans le désert. Et puis, ils ont chialé contre l'Éternel. On sait qu'ils l'ont fait souvent. Hein? Ils ont chialé contre l'Éternel. Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait? Ils ont envoyé des serpents. Ils ont envoyé des serpents venimeux. Et puis, les serpents se sont mis à mordre le peuple. Et puis, les gens mouraient empoisonnés. Et là, le peuple capotait. Les gens étaient en train de mourir. C'était la panique. Moïse va consulter l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Quelqu'un pour nous lire le passage dans Nombre 21, 4 à 9, le passage où est-ce que Dieu donne les instructions. Je n'ai pas le... C'est avant 9. Quelqu'un pour nous lire ça?
Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des Roseaux pour contourner le pays de Dom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant, « Pourquoi nous avez-vous sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans la terre, car il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent, et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant, nous avons péché, lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. Moïse pria donc pour le peuple. L'Éternel lui répondit, « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il leva les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve.
Les gens, pour avoir la vie sauve, devaient regarder au serpent. Et cette action-là, de regarder, impliquait qu'il y avait la foi. Pour regarder, ils devaient croire. Sinon, s'ils ne croiraient pas, ils n'auraient pas regardé. Il y a une action qui est impliquée, et l'action provient de leur foi. Encore là, la parole de Dieu nous montre un mécanisme. Quand tu as la foi, tu vas regarder et tu vas être sauvé. Ce passage-là est repris dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Où est-ce que c'est Jésus qui parle? Et puis, il explique comment avoir la vie éternelle. Et puis, il fait référence quand Moïse a levé le serpent dans le désert. Moi, je vais y aller, Jean 3. Oui, vas-y, chérie. Donc, Jésus va reprendre cette image-là de Jésus, du serpent dans le désert, et puis il va l'associer avec lui. Il faut que je sois comme le serpent, mais que je sois crucifié et que les gens croient en moi. Dans l'Ancien Testament, l'action, c'était de voir, de regarder. Et on peut comprendre en association que dans le Nouveau Testament, maintenant, ce n'est pas de regarder. C'est de croire. Fait qu'on peut faire le lien. L'action de regarder et l'action de croire, on peut les mettre ensemble. Ils sont synonymes. Quand les gens dans l'Ancien Testament ont regardé, c'est qu'ils ont mis leur foi, ils ont cru que Dieu pouvait les sauver. Donc, je regarde. Nous, aujourd'hui, on n'a pas Jésus devant nous. On n'a pas on n'est pas dans l'Ancien Testament où le serpent a été emmené. On n'est pas en train de se faire mordre par des serpents, puis on n'est pas en train de mourir. Mais on peut faire le lien de croire en Jésus crucifié va nous emmener à la vie éternelle, à la vie éternelle. Et on peut faire le lien que croire, c'est quoi? C'est regarder à Jésus-Christ. De regarder à Jésus-Christ, et de regarder à lui, c'est le fruit de notre foi. Le fait d'avoir la foi en Dieu, de croire en Dieu, c'est que mon cœur, avec les yeux de mon cœur, qu'est-ce que je fais avec les yeux de mon cœur? Je regarde Jésus-Christ et son œuvre. Je regarde à Jésus. On se questionne beaucoup sur c'est quoi la foi. J'ai-tu la foi? Et puis, on amène beaucoup de doutes, de philosophies par rapport à ça. Mais en réalité, la parole de Dieu nous présente ça d'une façon si simple. Regarde à Jésus. Est-ce que tu regardes à Jésus? Si tu ne regardes pas à Jésus dans ton quotidien, dans tout ce que tu fais, c'est quelque part ton cœur se détourne de Jésus. Est-ce qu'il est en train de mettre sa foi en Jésus? Est-ce qu'il est en train de croire en Jésus? Il se détourne de Jésus pour aller voir ailleurs d'autres sources, d'autres raisons d'être que Jésus-Christ. La parole de Dieu nous enseigne tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, dans tout ce qu'on fait, on doit avoir la pensée de Dieu dans notre vie. Et c'est difficile d'avoir la pensée de Dieu quand on n'est pas en train de regarder à Dieu constamment dans tout ce qu'on fait. C'est une invitation à tout ce que vous faites, à chaque moment dans votre vie, ayez les yeux de votre cœur tournés vers Jésus. Et le péché, qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce que Satan essaie de nous faire dans notre vie au quotidien? De nous détourner de Jésus, constamment, et de nous tourner vers les choses de ce monde, vers le divertissement, vers le plaisir, vers peu importe, ça peut être le travail pour certains, ça peut être... Il y a une quête... De s'accomplir, de se nourrir, de construire notre propre royaume. Mais dès qu'on arrête cette folie-là, puis qu'on regarde à Jésus, et qu'on fait l'exercice dans nos vies de constamment avoir les yeux de nos cœurs tournés vers Jésus. Ce n'est pas dépendant d'une place, ce n'est pas dépendant d'un moment. Bien au contraire. C'est intérieur. Notre cœur, on l'a constamment, notre être est constamment avec nous. Dans tout ce que l'on fait, d'avoir consciemment les yeux tournés vers Jésus, ça va avoir un impact énorme sur le choix, tous les choix qui vont s'offrir à nous dans notre journée. Comment j'agis, comment je parle, comment je réponds. Qui est-ce que je cherche à glorifier? Quel royaume j'essaie de construire ici? Si mes yeux sont tournés vers le Seigneur, considère qui il est dans toutes nos voies, mais chacune de ces décisions-là vont avoir une influence très différente dans chacune de nos vies que si nos yeux ne considèrent les yeux de notre cœur ne sont pas rivés sur lui. Ou est-ce que je suis seul à l'intérieur, par moi-même, pour moi-même, et non les yeux sur Jésus? Un enfant a beaucoup plus de difficultés de désobéir à son parent quand son parent est assis à côté de lui. Hein? Mais quand on a les yeux fixés sur Jésus, on est constamment dans la présence de Dieu. On est constamment conscient de la présence de Dieu. Et on voit que Jésus ne faisait rien sans regarder à son Père. Jésus avait constamment ses yeux tournés vers lui. On peut voir ça dans Jean 5, versets 19 à 21. Jésus avait constamment les yeux tournés vers Jésus. Il regardait constamment à son Père. On peut-tu avoir un meilleur exemple de foi que Jésus-Christ? Non. Tout ce que Jésus a accompli par la puissance de son Père, c'est parce qu'il avait la foi en lui. Jésus regardait constamment à son Père. Il avait la foi. Souvent, on se concentre beaucoup à essayer de la comprendre, la foi. Mais c'est-tu réellement ça qui est important? C'est l'objet de notre foi qui est important, qui est Jésus-Christ. Et la foi va apparaître. La foi est le fruit du fait qu'on regarde à Jésus. La foi n'est pas un geste qui... La foi n'est pas un geste qui mérite en soi la louange ou la gloire de quoi que ce soit. La foi... La gloire dans la foi, c'est dans la personne vers qui on la dirige. C'est la personne de Jésus-Christ. La foi redirige là où on met nos yeux constamment, le focus sur la personne de Dieu, et puis le péché essaie de nous en détourner. Et quand on regarde Dieu constamment comme ça dans nos vies, constamment, bien, si chacun de nous regarde à Jésus comme ça. Qu'est-ce que ça va créer dans une équipe, dans une église, au sein d'une communauté? Ça va créer l'unité. Vous savez, si on veut accorder des pianos ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut accorder les pianos l'un avec l'autre? Ça marche peut-être si on a juste deux pianos. On va accorder le deuxième piano sur le premier. Mais si on tombe à 3 pianos, 4 pianos, 5 pianos, 10 pianos, inévitablement, entre le premier et le dernier, il va y avoir une différence parce qu'à chaque fois, il y a une marge d'erreur qui s'ajoute, qui fait juste grandir. Pour accorder des pianos ensemble, qu'il y en ait 1, 2, 3 ou 1000, qu'est-ce que ça prend? Une seule référence, un diapason, juste un. On se sert de ce diapason-là pour accorder tout le reste et on peut être sûr et certain qu'il va y avoir unité parmi l'orchestre, parmi tous les pianos qui sont utilisés ou tous les instruments. Il va y avoir une harmonie. Parce que tous les instruments de musique regardent à une référence. Et c'est la même chose qui se produit avec nous quand on met notre foi en Jésus. Quand que nos yeux, les yeux de notre cœur sont constamment tournés vers Jésus, c'est la même chose qui va se produire. Il va y avoir une unité parmi nous qui va être sincère et profonde, qui va être un cadeau de Dieu, un fruit, et non quelque chose qui est l'objectif. L'objectif, c'est qu'on s'est unis. Non. Regardons à Jésus, Jésus va apporter l'unité. Que ce soit dans une situation de conflit ou dans une situation d'harmonie, ça va être la même chose. Quand on regarde tous à la même personne, nos yeux sont focussés sur lui, ça va produire la foi dans notre vie. Le fruit de cette foi-là, c'est que tout le monde va essayer de glorifier le Seigneur parce qu'on va tout avoir le cœur qui regarde à Jésus. On a tous le même objectif. Et ça nous amène à se détourner de nous aussi. « Ah, pauvre de moi, j'ai vécu une injustice. J'ai été bafoué. On ne m'a pas respecté. On m'a humilié. Ah, pauvre de moi. » Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Nos yeux se tournent où? Sur nous. Est-ce qu'on est dans la foi? Est-ce qu'on a les yeux à la bonne place? Non. Dieu n'est pas insensible à nos souffrances. Dieu va prendre soin de nos souffrances. Mais on va dealer avec nos souffrances d'une façon complètement différente. On va dealer avec l'injustice. Peut-être c'est vrai qu'il y a eu injustice à ton égard ou à notre égard. Peut-être que c'est vrai. Mais Jésus, quand tu regardes à lui, il va te changer la perspective complètement de cette injustice-là. Puis il va prendre soin de toi. Parce que Dieu est un Dieu qui répond. Quand on a les yeux tournés vers Jésus, on peut être sûr que Jésus a les yeux tournés vers nous aussi. Et Dieu nous regarde. Dieu est amour. Dieu est compatissant. Il n'est pas insensible à ce que l'on vit. Et c'est ce que je souhaite aussi pour Parkside. Dans mes réflexions, quand je réfléchis à tous ces conflits-là, je peux dire qu'à certains égards, à certains moments, j'ai manqué de foi. Mes yeux se sont détournés. Mes yeux se sont détournés de Jésus. Et j'ai commencé inconsciemment à servir, à construire mon propre royaume, à construire mon équipe, puis à expliquer ce que je vivais ou les injustices qui se passaient à des gens qui je soupçonnais à être compatissants envers ce que moi je disais. Je n'ai pas cherché la compassion au bon endroit. J'ai essayé de construire mon propre royaume à travers tout ça. Mes souffrances ont pris le dessus. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Donc, gardons les yeux tournés vers le Seigneur. Ça va faire toute la différence. Et la foi, c'est ça. C'est l'action qui nous pousse. Ça nous emmène à regarder à lui. Prenons le temps de prier. Merci, Seigneur Jésus. On est dans la joie, Seigneur, d'être réunis ensemble. On est, Seigneur, dans la louange également, de voir tout ce que tu accomplis. Seigneur, merci pour tout ce qui a été fait cet été. On voit, Père éternel, que tu es à l'œuvre. On voit ton amour à travers tout ce que tu as fait dans la vie de ces enfants-là, de ces staffs aussi, qui ont été exposés, Seigneur, à ton amour, qui ont été exposés à toi, à ta personne. Merci, Seigneur, et on te prie de continuer cette œuvre dans chacune de leurs vies. Continue de te révéler à eux, Seigneur, et d'attacher leur cœur à toi et à personne d'autre, Seigneur. On veut aussi, Seigneur, te demander de venir, Père, fixer nos yeux sur toi. En toute situation, Seigneur, que nos yeux demeurent attachés à toi. Et qu'on soit constamment dans ta présence, Père éternel. On désire que nos vies te glorifient en toutes choses. Et Seigneur, les situations de conflit, les situations difficiles, c'est pas toujours évident, Père éternel, d'agir d'une façon qui te glorifie, de constamment garder les yeux fixés sur toi. Viens à notre rescousse, Père éternel. Viens te révéler à nous, Seigneur Jésus, d'une façon telle que nos yeux n'ont plus jamais le désir de se détourner. Qu'on ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi, Seigneur Jésus, qui nous emmène à se détourner les yeux de toi. Viens faire cette œuvre dans chacune de nos vies, Père éternel. C'est le désir de chacun de nos cœurs. On veut te louer, te glorifier en toutes choses. Merci pour ce temps, merci pour cette Église. Je te prie de la bénir, de poser ton regard sur elle, Seigneur, de la faire, qu'elle se multiplie, Seigneur Jésus, et qu'elle continue, Seigneur, d'être une lumière dans la région ici. Il y a tellement de gens qui souffrent, Père, qui ont besoin de toi. Utilise chacun de tes enfants, Père éternel, ici dans la région, pour te révéler à chacune de ces personnes qui te cherchent et qui ont désespérément besoin de toi. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.